Radio R22 et ses labs, la voix est dans la rue.
Bonsoir, on est en direct sur la R22 et on est à Rennes, actuellement à l'École nationale supérieure d'architecture. En tout cas, vous nous avez appelé pour en fait nous parler de ce qui se passait à l'école. Du coup, vous m'avez envoyé un mail auquel j'ai répondu. Vous avez expliqué, vous avez décidé d'organiser une occupation de l'école ce soir. Donc à 21h officiellement, l'école elle ferme ses portes et peut-être que c'est le moment de revenir un petit peu sur qu'est-ce qui fait que vous êtes aujourd'hui dans la rue et qu'est-ce qui fait aujourd'hui que vous êtes au sein de l'école à l'occuper et surtout pourquoi. Donc je pense qu'aujourd'hui, je ne vais pas beaucoup prendre la parole, je vais surtout vous laisser un peu expliquer parce que vous êtes les meilleurs à même de parler de ça.
Donc les raisons de pourquoi on est mobilisés depuis maintenant 3 semaines, c'est donc je disais que c'était avant tout pour un mouvement de solidarité. Aujourd'hui, toutes les écoles d'architecture sont dans la rue et sont mobilisées. Et ça présente vraiment un problème qui est au niveau national, au sein de la... à la fois des étudiants, mais aussi de la profession. On met en question beaucoup de choses en ce moment dans nos études et dans notre futur métier. Parce qu'aujourd'hui, on nous donne pas les moyens d'être formés. On nous présente comme des acteurs de la vie de demain, des acteurs de la transition énergétique. Mais quand on voit en fait les moyens qui nous sont alloués, qui sont bien inférieurs à la plupart des établissements de l'enseignement supérieur, on se demande en quoi on peut réellement être acteur de cette transition. Et est-ce que c'est pas finalement autre chose qu'on demande aux architectes? Est-ce qu'on veut vraiment des architectes dans le monde d'aujourd'hui? En fait, c'est toutes ces remises en question qu'on fait aujourd'hui dans notre cursus. Donc on se mobilise depuis maintenant 3 semaines à l'École de Bretagne, mais le mouvement, il vit depuis 1 mois et demi suite au blocage de l'ENSA Normandie. En fait, le manque de moyens actuellement, il impacte tellement la pédagogie qu'on voit qu'on ne va pas être formé suffisamment pour exercer toutes les tâches qu'on attend de nous. Et c'est une vraie inquiétude qui porte donc les 5 promos des étudiants en architecture aujourd'hui. Et je pense qu'on est quand même dans un tournant de la profession des architectes. Si on se rend compte que donc les 5 prochaines promotions d'architectes seront sensibilisées à ces questions, seront conscients qu'on leur demande des choses qui sont infaisables et qu'il va falloir trouver des expériences extrascolaires, trouver d'autres choses pour se former. Je pense que ça peut vraiment être un tournant dans la profession et quelque chose qui réveille des choses.
Justement, peut-être que les auditeurs ne savent pas forcément qu'est-ce que c'est l'ENSA. Est-ce que tu peux expliquer? Ou une autre personne?
Donc une ENSA, c'est une École nationale supérieure d'architecture. Et donc du coup, l'enseignement de l'architecture en France, il est promulgué dans une vingtaine d'écoles. Donc l'ENSAB, c'est l'École nationale supérieure d'architecture de Bretagne, donc qui se situe à Rennes. Et donc du coup, en fait, ces 20 écoles sont habilitées à délivrer du coup le diplôme d'État en architecture, qui fait que l'on est apte à travailler en agence et à être des architectes. Et donc du coup, comme le disait Tim, qu'il a plutôt commencé à le dire, c'est qu'on avait chaque école a ses singularités, chaque école a ses individualités, et donc du coup, chaque école a ses propres revendications. Mais l'ensemble de ces revendications arrive à converger en fait en des revendications d'échelle nationale commune, qui fait que c'est pour ça qu'on arrive à avoir une coordination assez lisse en fait, qui peut potentiellement faire en sorte qu'on peut réussir à se faire entendre de manière assez cohérente auprès du ministère par exemple, parce que je pense que la plupart des ENSA on peut résumer assez simplement, je pense, que demandent la plupart des ENSA, à savoir plus d'argent, reconsidérer la formation de l'architecte. Et donc, du coup, s'il se passe ça dans les études et dans la formation, c'est qu'il se passe ça aussi également dans le métier. Donc, je pense que globalement, voilà ce qu'est une ENSA en France, en tout cas. Mais c'est vrai que dans les autres pays étrangers, l'enseignement d'architecture est plutôt promulgué dans des facs ou dans des universités, tandis qu'en France, on a un système où ce sont des écoles. Et oui, et donc c'est vrai qu'aussi, la plupart des problèmes qui viennent de ça, c'est la tutelle en fait en question. Donc c'est des établissements publics, donc qui sont sous la tutelle en fait donc du ministère de la Culture et du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Et donc du coup, bah voilà, globalement, en fait, l'acteur principal que toutes ces luttes essaient de toucher et de sensibiliser surtout, c'est le ministère de la Culture.
Cette question que d'autres personnes pourraient se poser, c'est on a souvent l'impression que des étudiants d'école supérieure, en tout cas, c'est des privilégiés. Et est-ce que vous pouvez un peu nous parler de vos conditions d'études ?
Oui, de manière générale, on reste vraiment étudiant et la précarité étudiante nous touche aussi au niveau de l'école. En lien avec les écoles d'art, on a beaucoup de matériel à acheter. Le matériel d'art, ça coûte très très cher. Et on n'a pas d'aide, c'est vraiment à nos frais. Donc même si l'école, elle est publique et à part les frais d'inscription, on n'a pas 3000 euros à l'année à payer ou des choses comme ça. On a tout le matériel qui coûte cher. On a beaucoup de voyages pédagogiques qui sont importants dans notre cursus, important en tant qu'en architecture de voir. Et en fait, le problème, il joue aussi que l'école n'a plus les moyens, en fait, avec la hausse, enfin l'inflation, la hausse de l'énergie, etc. Il faut qu'elle fasse des choix, payer les factures d'électricité ou nous financer les voyages. Donc on se retrouve, si on peut faire des voyages, c'est aux frais des étudiants, ce qui est conséquent. Et le problème de l'électricité et de la hausse de l'inflation, ça fait... les bâtiments sont assez vieux, sont vétustes. Dans des écoles, il pleut. Nous, à l'école d'archi, il y a eu des travaux de rénovation faits parce qu'il pleuvait dans le hall de l'école dès qu'il pleut. C'est un peu affreux. Et des gros manques de place et des écoles qui sont complètement surchargées parce que ça fait 20 ans qu'il n'y a pas plus d'étudiants qui arrivent dans l'école, dans les écoles en général. Alors que le nombre d'étudiants au niveau national augmente. Dans les écoles d'ingénieurs, il y a beaucoup plus d'ingénieurs qui sont formés que d'architectes. Voilà, tout plein de problèmes qui sont liés, qui font que même si on est des écoles supérieures et pas des facs, on est lié au même problème que tous les étudiants.
Et du coup, pourquoi passer par le choix d'occuper votre école ? Et comment ça s'est décidé et qu'est-ce que vous espérez avec ça ? Je vais venir.
Non, c'est bon. Une des spécificités des écoles d'architecture, c'est le fait qu'on passe beaucoup, beaucoup de temps à l'école. On a même étudié beaucoup en cours de SHS le fait qu'on habitait notre école parce qu'on y est du matin au soir. En période de rendu, elle est fermée assez tard. Dans tout le semestre, elle ferme à 21h30, donc on y reste souvent tard. Et y passer la nuit, c'est aussi montrer qu'on y tient, que c'est chez nous et que les conditions dans lesquelles, vers lesquelles elle tend ne sont plus propices à étudier correctement et à y habiter correctement. Donc c'est pour ça qu'on passe la nuit aujourd'hui. C'est pour déjà montrer l'intérêt qu'on y porte. Et puis aussi, c'est symbolique de la place que nous, élèves, on prend dans cette école.
Et puis avec ça, c'est aussi un super moment de cohésion et d'émulation collective au sein de la lutte. On a fait beaucoup, beaucoup d'ateliers de production, de réflexion cette semaine, ce qui faisait qu'on se retrouvait beaucoup en petits groupes à travailler chacun sur notre sujet. Et donc là, un peu en apothéose de cette fin de semaine, se retrouver tous ensemble pour partager, pour soit discuter de la lutte et mettre en perspective tout ce qu'on a étudié, soit sortir la tête de l'eau aussi, parce que c'est important de prendre du recul de temps en temps sur tout ce qu'on fait. Je pense que c'est vraiment un moment libérateur pour les étudiants. Et peut-être les quelques enseignants qui seront là aussi ce soir, c'est ouvert à tout le monde. Et donc ouais, il y a cette forme d'émulation collective qui est très importante dans cette nuit à l'école aussi.
Et vous êtes à peu près combien ce soir et comment est-ce que vous vous préparez à ça ?
Eh ben, on a essayé un peu de prévoir à l'avance le nombre de personnes qu'on sera, mais on peut pas savoir exactement. On a essayé d'organiser l'école au mieux pour que ça puisse se passer de la meilleure des façons, parce que c'est une occupation qui est pas autorisée par notre direction et qui est illégale techniquement. Donc on essaie de faire ça bien, on a élaboré une charte de la nuit, on a séparé les ateliers en ateliers mixtes ou réservés. On se prépare à avoir environ potentiellement une centaine de personnes à rester dormir à la nuit et potentiellement entre 200 et 250 à venir profiter de la soirée avec les projections, les jeux, les discussions, ce moment de radio qui est très sympathique Et donc voilà, on s'est préparé toute la semaine avec notamment l'administration qui, même si elle n'était pas d'accord à la base, nous accompagne dans ça pour que ça se passe au mieux.
D'ailleurs, je tiens à vous remercier de cette invitation parce que en réalité, je trouve ça très courageux de porter une initiative collective et en tout cas d'essayer de la porter bien. Et ça, c'est pas donné à tout le monde et c'est pas donné de réfléchir de manière collective aussi, de porter ce genre de voix. Je sais pas si, en tout cas, au terme des auditeurs, tout à l'heure, j'essaye de demander comment ça se passe à l'écoute, parce que c'est vrai que vous avez une connexion, malheureusement, qui saute. Ça coupe tout le temps. Là, ça tient à peine 30 secondes. Pour les auditeurs qui nous écoutent, en tout cas, la connexion n'est pas à la hauteur des personnes qu'on est et que j'ai devant mes yeux, en tout cas. J'aimerais bien aussi vous poser la question de... justement, vous avez beaucoup dit que vous aimiez beaucoup votre école. Qu'est-ce que vous espérez obtenir, en fait ?
J'espère, je pense qu'on espère tous avoir plus de visibilité tout d'abord, puisque comme on l'a dit en AG, parce qu'on avait une AG juste avant, du coup toute la sphère médiatique est un peu compliquée à avoir entre guillemets. Du coup on espère avoir de la visibilité et aussi même cette soirée, c'est pour, cette soirée jusqu'à demain matin, c'est aussi pour préparer en fait tout ce qu'on va faire vendredi et dans les jours à venir, parce qu'on a fait aussi une semaine, on a voté une semaine de blocage pour continuer à faire mettre en œuvre toutes nos revendications, que ça soit par des ateliers comme ils ont dit, plus travailler, ou sinon quand on part à la rue pour porter notre voix plus fort. Donc voilà, merci.
Ce qu'on voudrait aussi, ce qu'on cherche aujourd'hui, c'est une main tendue. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, on lance vraiment un appel à l'aide. On travaille dans des conditions qui sont pas possibles. On a des bâtiments qui sont vétustes. Enfin, les promesses, on en a eu beaucoup avec des postes qui sont finalement pas ouverts. Ce qu'on veut, c'est avoir une voix suffisamment forte pour se faire finalement entendre et avoir une réponse. En fait, ce qu'on veut, c'est entamer un dialogue avant tout. Nous, on est là pour pouvoir discuter. On est ouvert. Et si on fait des manifestations, c'est pas pour être violent, c'est pas pour casser, c'est juste pour signaler que là on a un réel besoin et qu'on a besoin d'être entendu et d'être écouté surtout.
Et donc ce qui est assez intéressant, c'est que récemment on s'est retrouvé en mouvement avec les écoles des Beaux-Arts de Bretagne et on a vraiment remarqué que c'était un problème qui était aussi commun avec le ministère de notre tutelle, le ministère de la Culture. Parce qu'il y a évidemment un problème budgétaire qui est présent dans la plupart des sphères publiques, mais il y a aussi un problème de statut, un problème de décret, un problème structurel qui fait que nos écoles fonctionnent mal. Pardon. Et donc il y a vraiment plusieurs revendications qu'on porte, et l'une des principales, c'est un peu chercher un nouveau ministère de tutelle, se poser la question, d'accord, le ministère de la Culture ne veut visiblement pas de nous, parce que les premiers retours qu'on a eus, C'était cela. Alors donc il y a eu plusieurs réunions de différentes ENSA et différents collectifs avec le ministère de la Culture, des interpellations au Sénat à différents endroits. Et les retours qu'on a eus, c'était qu'on n'aurait pas d'argent en plus. Juste avant notre mouvement national, on est tous allés devant nos DRAC respectives, donc Direction Régionale des Affaires Culturelles, qui sont les antennes du ministère de la Culture dans chaque région. Toutes ces DRAC ont reçu un mémo du ministère de la Culture qui leur donnait d'autres chiffres, des chiffres qui sont contradictoires des nôtres et qui mettaient bien plus en valeur tout ce qu'ils mettaient en œuvre pour nous. Et donc ça montre vraiment une position de non-discussion et de non-compromis. On voit qu'on n'est plus désiré par le ministère de la Culture, donc on se pose la question de vers qui on se tourne désormais. Parce que c'est vraiment un enjeu important quand même. L'architecture prend une place très importante dans nos vies, dans la vie de tout le monde. Et en fait, on essaye de montrer la sonnette d'alarme, comme quoi, si on arrête de former les architectes, le monde va mal tourner. En fait, on est des acteurs importants de la société de demain.
Quand on sait que, en fait, l'architecture elle touche un peu tout le cadre de vie de tout le monde au quotidien. En fait, les architectes, au-delà de penser les bâtiments, ce qui est la première image qu'on s'en fait, ça, on pense les villes, on pense les paysages, on pense en fait vraiment, c'est ça, c'est tout le cadre de vie et que tout le monde côtoie au quotidien, en fait. Et c'est pour ça que notre rôle, il est important. En tout cas, on espère pouvoir porter ça, c'est qu'on veut un monde meilleur et pour ça, il faut qu'on puisse, nous, y réfléchir, il faut qu'on y soit formé. Et aujourd'hui, en tout cas, dans nos études, on nous pousse à tout ça, on nous pousse à considérer toutes les questions d'égalité, toutes les questions de bien, enfin, en tout cas, prendre en compte tellement de choses autour de nous pour pouvoir intervenir le plus justement possible. Et en fait, la réalité, c'est qu'une fois qu'on arrive en milieu professionnel, la profession en elle-même, elle n'a pas les moyens de pouvoir agir comme elle aimerait. Et donc, on demande surtout revaloriser l'architecture en général parce que c'est une profession qui est très dévalorisée, alors qu'elle a un rôle essentiel. On voit bien encore plus maintenant puisque on demande beaucoup de choses à l'architecte au vu forcément de le contexte climatique actuel, et c'est vrai à juste titre. Mais on aimerait en fait pouvoir prendre la place qu'on devrait occuper et en tout cas pouvoir participer à la transformation de la société.
C'est marrant parce que on a couvert la conférence HMNOP, c'est ça ? Et ce que moi j'ai trouvé très très surprenant en tant qu'auditrice aussi, hein, parce que du coup j'ai assisté et j'apprenais pas mal de choses, c'était aussi, je trouve la posture pas évidente que vous avez de commencer des études. Pour la plupart, et d'être encore dedans et qu'on vous dise que finalement faut plus, ou en tout cas on vous dit faut plus comme ça, ou on vous dit ça continue mais ça risque d'être difficile, et peut-être que l'architecte aussi se retrouve pour la première fois dans une configuration où c'est réellement des métiers qui se précarisent par le manque de choses qui vont se construire aussi, quoi, mais surtout aussi le manque de moyens, en tout cas, de mettre en œuvre on va dire des constructions viables. Je sais pas, peut-être vous aurez plus de choses à dire.
En fait, des constructions, il y en a. C'est juste que c'est vrai qu'on ne trouve plus la place, nous, en tant qu'archi. Peut-être parce que, justement, on est peut-être un peu trop conscients de ce que ça implique de construire. Et aujourd'hui, on se bat aussi pour ça. C'est parce qu'on forme de plus en plus d'ingénieurs, ingénieurs civils, ingénieurs pour le bâtiment, et on ne forme pas plus d'architectes. Et la place dans la construction, elle n'est plus donnée aux architectes. Elle est donnée à des promoteurs, à des ingénieurs et à des personnes qui n'ont pas ce bagage historique, culturel, urbanistique, toute cette formation que nous, on a. Et en fait, c'est ça qui nous permet de faire projet, faire la ville, faire le territoire. Et si on n'a plus notre formation dans le milieu, le globe de la construction, on va perdre cette richesse-là et puis on va construire des villes à l'envers, quoi. Et la question, c'est oui, peut-être que l'architecte ne doit plus construire ou plus construire comme ça, mais notre rôle, il est ailleurs aussi. Mais par contre, il faut qu'on le retrouve, et c'est ça qu'on demande, c'est de retrouver un rôle, une place, un objectif et une considération à partir des études et puis après dans le métier, etc.
Moi, je dirais que le problème que vous avez énoncé, il est un peu à retourner. C'est-à-dire que finalement, intervenir sur de l'existant, réhabiliter un vieux centre-ville, c'est souvent beaucoup plus complexe que de faire une extension urbaine. Et il y a souvent beaucoup plus besoin d'architectes pour ce genre d'opération que pour faire l'extension urbaine qui est dédiée au promoteur, le maître d'œuvre. Et donc c'est là où pour moi l'architecte devient de plus en plus essentiel, c'est qu'on sait tous qu'il va falloir arrêter de construire. C'est une fatalité, c'est un fait. Et dans le fait d'arrêter de construire, ça veut dire traiter le tissu urbain existant. Et pendant 5 ans, nous on est formés à cette question. Là où beaucoup de gens du milieu de la construction ne le sont pas, et ce ne sont pas leurs préoccupations. Donc c'est vraiment pour moi un problème à retourner. Plus il y aura de traitement du tissu actuel, plus il y aura besoin d'architectes.
Dans la continuité aussi, il y a un peu cette idée de la transmission et du rôle de l'architecte, autant dans la construction en tant que maître d'œuvre et en tant que penseur, mais il y a aussi la transmission et son rôle pédagogique, parce que on est des personnes qui ont une formation à l'espace et à comment ça se construit et comment est-ce qu'on réfléchit et comment ça fonctionne. Et il y a ce rôle de pouvoir le transmettre. Enfin, je ne veux pas rentrer dans des références, mais je pense tout de suite à Patrick Bouchain qui a un architecte qui a un grand rôle justement de transmission de l'architecture pédagogique. Et il y a cette question de, bah, en fait, nous, là, pour revenir justement aux études, nos études, elles sont un peu en péril, parce que les écoles, elles sont vraiment en péril. Et il y a cette question dans la revalorisation du métier, qu'est-ce que ça implique de perdre des architectes. En plus, on voit bien aujourd'hui, on arrive à construire sans architectes, c'est pas forcément bien, mais on y arrive. Mais il y a quand même toute cette question culturelle et pédagogique qui se perd et qui va poser un réel problème.
Et le réel problème, il se passe en fait dans le fait que les professions qu'on a énoncées juste avant, c'est des professions qui sont, pas très ciblées, mais si vous voulez, l'architecte, il a vraiment une posture généraliste et attentive et sensible, et en fait de l'analyse, de l'observation qu'il va faire d'un contexte, donc aussi bien forcément construit, bâti, mais plus largement historique, social, paysager, en fait toutes les notions sensibles qui touchent un territoire, tout ce qui constitue un territoire, pas uniquement dans la sphère architecturale. Ça, c'est quelque chose qui fait notre richesse. Et comme a été dit précédemment, on nous incite de plus en plus à intervenir sur ce qui existe déjà, et donc prendre en compte tout ce contexte-là pour pouvoir intervenir au plus justement possible. C'est quelque chose que l'architecte est en mesure de faire, là où les autres professions, elles sont techniques, et donc elles savent opérer, agir, on va dire, mais pas forcément le penser, ou en tout cas pas de la même manière. Et on trouve que, en tout cas, nous, on aimerait pouvoir prendre le rôle là, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui nous passionne et surtout qui nous paraît essentiel dans le monde qu'on veut construire pour l'avenir. Et on aimerait pouvoir retrouver cette place-là, en tout cas pouvoir l'occuper pleinement.
Il y a quand même cette question-là de comment est-ce que l'architecte fait corps aussi avec sa société et la société qui évolue. Donc voilà, vous étiez présent à la manifestation tout à l'heure. Votre acte, il est pleinement politique, en tout cas d'occuper. C'est les mêmes moyens d'action qui sont déployés à Rennes 2 aussi. Vous êtes des étudiants aussi, mais après, enfin, ça peut jusqu'à nouvel ordre, je sais pas. Mais en tout cas, comment est-ce que vous positionnez aussi par rapport à des luttes qui sont portées par des étudiants qui sont pas en école, mais à l'université?
Alors c'est vrai que notre lutte, elle peut pas être similaire et forcément assimilée, parce que on revient à la question du ministère de tutelle. On n'est pas sous le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, mais on est principalement sous tutelle du ministère de la culture, et du coup c'est un peu ça qui va changer beaucoup de choses. Et voilà.
Aussi, je pense cette question aussi, elle est super liée à ce que tu avais dit juste avant. L'architecte qui doit se trouver une nouvelle place. Et je pense qu'intéressant, c'est sur la question de la tutelle. En fait, c'est vrai que quelque chose qu'on conscientise beaucoup en ce moment, c'est est-ce que l'enseignement de l'architecture doit-il toujours appartenir en fait à la culture, finalement? C'est quelque chose qui est né à une époque dans les années 70, à la fin des années 70-80, en fait, où il y a eu des lois qui ont dit que l'architecture c'est intérêt public, c'est une expression de la culture, etc. Mais c'est toujours le cas, je pense que c'est immuable et c'est constant dans le fait de bâtir. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'architecture répond à énormément d'enjeux. Les enjeux de 50 ans, la crise du logement par exemple, juste avant. Mais je pense que les enjeux de maintenant, c'est plus de répondre à la crise climatique, globalement. Et donc, est-ce que par exemple, l'enseignement de l'architecture n'appartiendrait-il pas plus légitimement au ministère de la Transition écologique, par exemple, et de la cohésion des territoires? Et en plus, oui, c'est vrai que le nom se prête bien, parce que l'architecte aménage le territoire, finalement. Enfin, c'est lui qui fabrique, en fait, qui fabrique le territoire. Et donc, je pense qu'en tant qu'étudiant, des fois, on se sent pas trop légitime de porter des revendications aussi hautes, parce qu'on se rend peut-être pas compte des moyens structuraux que ça engendre de devoir faire plein de changements comme ça. Mais finalement, c'est pas si incohérent de ça, quand on voit ce qui se passait en 68, en fait, où c'est quand il y a eu des énormes luttes comme ça qui ont fait des énormes changements. Donc voilà, je pense que notre lutte sera très longue, et on garde ça en ligne de mire.
Et justement, pour poursuivre sur ce que Ronan vient de dire, en tant qu'étudiant, on a un peu ce droit à la naïveté. Mais naïveté, c'est un mot qui est péjoratif. Sauf que moi, je ne le vois pas comme ça. Je le vois plutôt comme quelque chose de très positif, où on se dit on est encore tous ensemble quand on est à l'école. Et une fois qu'on est diplômé, ce n'est plus la même chose. Les HMONP qui étaient là cette semaine ont eu l'occasion de nous le dire. Et quand on est tous à l'école, on est tous ensemble et on a le droit à cet espoir de se dire que peut-être que si ça part de nous, si on fait bouger les choses, peut-être qu'on arrivera à construire l'avenir qu'on veut et qui soit en accord avec nos valeurs qu'on revendique aujourd'hui.
Enfin, comment est-ce que vous pourriez relier ce qui se passe ici avec ce qui se passe autre part et notamment dans les universités aussi ? Parce que, enfin, personnellement, vous dites que vous manquez de moyens, alors à l'université, ils sont carrément au bord de la faillite, quoi.
Je vais me lancer. On est effectivement beaucoup d'écoles à être en crise. Je pense qu'on peut parler en chiffres. Nous, à l'ENSAB, on a perdu 120 000 euros sur le précédent exercice, ce qui n'est pas rien. Et ce qui fait qu'on fonctionne aujourd'hui sur les fonds de roulement. Donc, ce qui fait que dans 3 ou 4 ans, ça ne pourra plus fonctionner. Effectivement, on aurait beaucoup de liens à tisser avec l'université. Aujourd'hui, on est en manifestation avec le cortège des ingénieurs. Et on a notamment un double cursus qui lie les deux écoles. La dernière fois, on était en cortège avec les arts en lutte. Et je pense qu'on a vraiment intérêt à se rapprocher des différentes luttes parce qu'il y a beaucoup plus de points communs qu'on peut trouver que de différences. Et c'est un travail qui doit être fait, nous, en archi. C'est assez dur, on est souvent dans notre bulle, on est souvent dans notre monde. On a une école qui est hors campus, la plupart des écoles sont hors campus. On n'a pas le même crous que les autres, on n'a pas tout ça. Ce qui fait qu'on est rapidement isolé, on vit rapidement dans un microcosme. Donc aujourd'hui, je trouve ça déjà très beau pour notre mouvement de s'être lié au national, alors que d'habitude, on a très peu de liens, même avec les autres écoles d'architecture. Je trouve ça très beau que ce mouvement ait pu se lier avec les arts en lutte, qu'on ait pu rencontrer les ingénieurs aujourd'hui. Et je pense qu'on a encore beaucoup de travail pour se joindre à tous les autres mouvements qui sont en lien avec nous.
Mais pour moi, ça me paraît important parce qu'on fait d'autres plateaux aussi avec des étudiants et notamment de la faculté. Et vraiment, la faculté, ça fait bien des années que ça a perdu en argent et qu'on ne sait même plus comment ça roule. Donc je pense qu'il y a une chose que vous pouvez mettre en perspective, c'est que quand il n'y a plus d'argent pour l'éducation nationale, pour l'éducation tout simplement, ça fait une génération d'étudiants telle qu'elle soit qui sont en difficulté en tout cas pour exercer et pour même se projeter dans l'avenir de leur exercice, quoi. Même si on n'est pas en direct, j'ai coupé le direct parce que j'arrêtais pas de le regarder et vous voyez très bien que ça me stressait que ça coupe à chaque fois comme ça. Mais comme je vous ai répété, ce moment-là, il vous appartient aussi à vous, il est plutôt historique. Il me semble que c'est la première fois que cette école est occupée. Et du coup, est-ce que vous avez des choses à partager pour conclure qui vous paraissent importantes, ne serait-ce que pour les perspectives ?
Moi, j'aimerais bien évoquer la question du droit à l'architecture. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ça apparaît vraiment comme un privilège, quelque chose qui s'adresse qu'à des personnes qui ont un budget assez énorme pour des projets individuels. Alors qu'en fait, nous, ce qu'on défend, c'est que l'architecture, c'est pour tous, c'est un droit fondamental. C'est-à-dire que c'est une activité libérale, c'est-à-dire au même titre que le droit, la justice, la médecine, il y a l'architecture. Et ça, c'est dans la loi depuis 1977. Et aujourd'hui, pourtant, on persiste à penser une figure de l'architecte des murs, quelqu'un qui est au-dessus de tout. C'est peut-être marqué historiquement par des interventions d'Haussmann ou des acteurs du mouvement moderne, etc., de la planification urbaine qui a généré quand même beaucoup de traumatismes. Aujourd'hui, nous, on essaie de se réinventer une place. Et cette place, c'est aussi la reconnaissance du savoir des habitants. Et qu'on sorte de cette époque vraiment où l'architecte était au-dessus de tout, survolait les plans, décidait tout seul. Aujourd'hui, c'est vraiment une idée de partage, avant tout.
Je voudrais juste préciser aussi par rapport à tout ça, parce que forcément là on est à l'école, on occupe l'école, on parle de notre mouvement et de notre lutte, et que forcément en fait ça s'inscrit, tu parlais Lauriane des étudiants à l'université qui sont comme nous vraiment la tête sous l'eau, et en fait c'est ça, c'est complètement général, là on parle de nous mais ça s'inscrit vraiment dans un mouvement national, le mouvement des retraites globalement dans l'espace, enfin pas l'espace public mais le service public qui dégringole et qui est de moins en moins valorisé, de moins en moins financé. Donc juste pour qu'on pour préciser qu'on garde en mémoire ça et qu'on est tous là en train de on a nos revendications et on s'inscrit vraiment dans la continuité de tout ça et que on n'est pas on n'est pas en position de force ou quoi que ce soit. Je savais que c'est pas ce que tu disais mais voilà pour le préciser et appuyer la chose complètement.
Est-ce que vous pourriez juste avant qu'on s'arrête, il est 21h01, peut-être que je sortirai pas de cette école. J'espère quand même, j'ai une longue journée. Mais en tout cas, nous dire qu'est-ce qui se passera vendredi, c'est-à-dire demain, et à quel point c'est important pour votre mouvement.
Demain, à Paris, devraient être reçus des délégations des écoles de Normandie, donc de l'ENSA de Rouen, qui est un peu l'épicentre de toute cette colère, globalement, et donc de Paris-la-Villette. Et donc en fait, nous, l'enjeu, c'est en écho à ce qui va se passer à Paris, comment est-ce que nous, chacun dans nos localités, en fait, comment est-ce qu'on peut agir. Donc ça a eu pas mal de réflexions sur ça, et donc en fait, nous, à Rennes, avec l'ENSAB, on va, par exemple, le matin, faire un barrage filtrant du boulevard de Chézy, donc qui est un axe viaire assez important dans Rennes, juste devant l'école. Et en fait, l'idée, c'est pas forcément de dire à l'automobiliste, enfin, si, en vrai, si, pas mal, mais c'est pas forcément de dire à l'automobiliste... qui arrive et que l'on va déranger 2-3 minutes, voilà ce qui se passe. Mais c'est surtout aussi de faire du bruit, et c'est un peu un truc, je pense que c'est un peu un travers dans lequel on peut tomber, de juste vouloir faire du bruit, mais malheureusement, c'est un des seuls moyens qu'on a pour l'instant de traverser cette épaisseur médiatique, qui est quand même super compliquée, je pense. Surtout qu'en étudiant, on sent un peu, je pense Maureen le disait tout à l'heure, un peu la naïveté en fait, de dire « Hey, on vous contacte, on a besoin de gens pour relayer, mais c'est un peu la réalité des choses ». Et ensuite, donc l'après-midi, on va faire en fait une démonstration. Donc c'est une manifestation en fait, mais c'est pas une manifestation qu'on entend, à savoir cortège qui se déplace et qui fait beaucoup de bruit. C'est plus une démonstration artistique dans l'espace public. Donc ce serait place de la République. Et donc en fait, l'idée ce serait d'avoir quelque chose d'assez étrange en fait, qui interpelle les gens, de l'ordre de l'extraordinaire en fait, qui fait que les gens s'en rappellent, s'en souviennent, soient marqués par ça. Donc ce serait très très visuel en fait, avec des maquettes, donc l'ensemble de nos maquettes, donc qui parfois pour certains datent de 3 ans, 2 ans, des maquettes qui ont été des rendus finaux de ce semestre là, donc on va peindre, enfin qui sont peintes en rouge, et en fait l'idée c'est de les éparpiller dans l'espace public, enfin de les rassembler, etc. Pour faire une forme qui marque en fait, pour transmettre un message. J'ai pas forcément la même vision que les autres de ça, je sais pas si toute personne voudrait... Je voudrais un peu en dire plus, mais ouais, globalement, voilà, c'est ça qu'on va dire. Et puis, mais deux actions majeures, en tout cas, deux actions majeures dans ce vendredi 24. Donc,
oui, pour compléter sur les maquettes, va y avoir aussi des QR codes qui vont permettre en fait de sensibiliser permettre aux personnes en fait qui voient ces maquettes de justement scanner ce QR code et comprendre la lutte dans laquelle on est. Le but, c'est vraiment que les gens voient les architectes dans l'espace. Parce que c'est quasiment jamais arrivé, le fait qu'il y a eu des blocus devant l'école, mais là c'est vraiment aller sur des lieux bien particuliers, c'est faire une procession, c'est aussi aller à la République, et on espère aussi laisser grâce aux maquettes des traces dans la ville qui font que les gens vont être interpellés et vont vraiment s'intéresser au mouvement. Donc l'idée c'est vraiment de se faire voir, et c'est aussi ce qui va se passer pour le barrage filtrant. Et donc ce que je disais, pendant la manifestation, il y a une partie procession, où là, on va vraiment mettre en scène du carton, mais aussi des volumes, qui va faire que voilà, on va se demander ce qui se passe. Ça sera vraiment très anormal pour une manifestation. Enfin, en tout cas, ça sera beaucoup plus créatif. Et ensuite, une fois arrivé à République, justement, de partir dans une espèce de scénographie qui fait que les gens sont un petit peu happés. On a la chance d'être à République maintenant, donc on va pouvoir voir les gens qui sortent du métro, les gens qui sont dans les taxis, les cars, les piétons. Et voilà, ces gens-là, ils ne sont pas du tout habitués à voir des gens, enfin, les architectes mobilisés. L'idée, c'est vraiment de travailler notre communication pour qu'on soit vraiment une force et qu'on nous reconnaisse avec drapeaux, affiches, slogans. Et voilà, c'est vraiment une scénographie qui va se faire tout du long d'une après-midi, quoi.
Et donc moi, à mon tour, j'aimerais bien faire une précision donc, sur la notion de blocage, en fait. Donc la notion de blocage qui est assez péjorative aujourd'hui, et que nous, on a exercé toute cette semaine et qu'on a reconduit pour la semaine suivante. Donc là, en fait, toutes les actions dont on a parlé, toute la sensibilisation à la lutte qu'on fait à l'école, elles ont été votées en Assemblée Générale, et tout le monde a décidé de faire un blocage. Et donc ce blocage, en fait, ça veut dire qu'on n'a pas d'enseignements qui sont donnés pendant cette semaine, pendant ces deux semaines désormais, mais ça veut dire en fait qu'on a toute une autre forme de pédagogie qui prend place. Une pédagogie alternative, une pédagogie qui est auto-construite, et en même temps qui est accompagnée par nos enseignants qui viennent la journée avec nous. Et en fait, c'est finalement très formateur pour nous de voir tout ça qui se passe à l'école, d'être aussi politisé aussi tôt dans notre cursus. C'est quelque chose qui est anormal et qui est très bénéfique pour notre cursus. Et en fait, ce blocage, il ne faut pas le voir comme quelque chose de nocif ou de perdre du temps, d'être en vacances. Nous, on le voit vraiment comme des temps de production, de réflexion. Ces actions qui s'enchaînent, donc de ce matin, le départ en cortège de manifestation, jusqu'à demain, fin d'après-midi, qui sera la fin de la procession. C'est beaucoup de préparation, c'est beaucoup de réflexion, beaucoup de production. Ça nous prend beaucoup de temps, ça mobilise une centaine d'étudiants sur une semaine, en fait, ce qui est énorme. Et donc voilà, c'était cette nuance que je voulais faire. C'est l'importance du blocage, l'importance de faire une pause. On était venu faire un plateau radio sur la pause il y a quelques semaines de ça. Et je pense que c'est à beaucoup mettre en perspective sur ce plateau radio de la pause, où en fait on s'y retrouve aujourd'hui dans cette pause qui nous permet finalement d'être beaucoup plus productif qu'on pourrait l'être en temps normal.
Pourquoi cette nuance ? Pourquoi tu voulais apporter une nuance justement sur ce terme-là ?
Parce qu'à mon sens, le terme blocage, il est devenu très péjoratif au fil des dernières semaines. Pour un avis général, je pense que autour de moi, je dirais, je viens d'une société assez bourgeoise, dans mon cas, et effectivement, le terme blocage, il est vu comme des gens qui nous font chier. Clairement, c'est les termes qui sont dits autour. Non, je veux expliquer que le blocage, c'est pas quelque chose d'inactif, c'est quelque chose de finalement très productif et qui amène à beaucoup de choses. Et c'est ce dont les gens se rendent pas forcément compte. C'est que quand on bloque souvent, c'est qu'on n'en a pas le choix. C'est que ça revient à des revendications qui trouvent leur finalité dans le blocage. Et que le blocage, c'est une manière d'être tous ensemble, de se rassembler et de produire énormément.
Je trouve que c'est une très très belle manière de terminer, en tout cas notre rencontre de ce soir. Tout à l'heure, avant que le plateau commence, je vous ai demandé qu'est-ce que vous comptiez faire. Certains parlaient d'un très grand loup-garou. voilà. Mais en tout cas, je vous souhaite bien du courage pour demain. Je vous souhaite bien du courage aussi pour la suite. N'hésitez pas en tout cas à nous faire part de comment ça se passe. Si vous m'invitez, c'est dans une autre salle. Voilà. Mais en tout cas, je serais ravie de revenir et je serais ravie de revenir pour partager des instants avec vous. Et évidemment, je suis toujours à... Ma posture, c'est de vous poser des questions et d'essayer de chercher, en tout cas, pour approfondir aussi certaines réflexions. Mais c'est jamais à mal, c'est jamais contre vous. Merci à vous. Passez une bonne soirée. C'est une longue journée, je vais aller dormir. Bonne nuit.